Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Suite de cette rencontre des clés pour vivre pour cette série autour de ces abus sexuels qui ont été commis par des frères prêtres donc de l'Église catholique, pour témoin et intervenant de la semaine. Et c'est la suite d'une série réalisée il y a quelques mois. Donc on poursuit cette rencontre. Je vous remercie Véronique Garnier-Bovier.
Bonjour.
Très heureuse de vous retrouver après aussi tout ce chemin parcouru et particulièrement depuis cette première rencontre avec l'épiscopat français. C'était donc en novembre 2018. On va parler aussi de ces nombreuses rencontres aujourd'hui que vous avez dans des paroisses où vous êtes appelée. Je rappelle que vous êtes déléguée épiscopale à la protection de l'enfance dans le diocèse d'Orléans et que vous avez presque pour lettre de mission de répondre à toutes ces invitations. Alors, est-ce qu'on peut faire une relecture de ces temps de témoignages en paroisse auprès de ces personnes qui viennent donc vous écouter ?
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, à la suite de la rencontre à Lourdes avec les évêques, on peut remarquer que quelque chose a changé au niveau des diocèses, parce que petit à petit, de plus en plus de diocèses se mettent à nous demander, je dis nous parce que c'est pas seulement moi-même, mais d'autres personnes qui ont été victimes sont aussi demandées dans certains diocèses pour témoigner, pour intervenir un peu, soit dans des journées de formation, soit dans des soirées un peu d'échange, débat dans des paroisses. Et ça, je pense que peut-être on peut faire le lien avec quelque chose d'une confiance qui s'est un petit peu tissée à Lourdes. Et peut-être un certain nombre d'évêques ont moins peur qu'avant de nous laisser intervenir, de nous inviter.
Donc moins peur des victimes.
Oui, et peut-être aussi les victimes ont moins peur des diocèses, des évêques. Voilà. En fait, il y a une peur des deux côtés qui doit tomber petit à petit. Je pense que vraiment, on doit comprendre que les victimes ne sont pas les ennemis de l'Église. Voilà, donc ça c'est très important. Et peut-être quelque chose s'est passé à Lourdes, un peu de cet ordre, qui est un apprivoisement et des peurs sont tombées. Et donc depuis, il y a eu pas mal d'interventions dans des diocèses ou dans des paroisses pour des journées de formation où on a demandé à des personnes victimes d'intervenir, moi-même aussi. Et ça, c'est un changement et je pense que c'est très important.
Et c'est une avancée
plutôt
positive.
C'est positif. Et je pense que ça correspond aussi à un moment où de plus en plus de personnes se mettent à réfléchir, prennent conscience. En fait, il y a eu quand même une avalanche de mauvaises nouvelles, on va dire. Hein. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont choqué beaucoup de chrétiens. Par exemple, ce qui a été dévoilé par le documentaire de Arte au sujet des religieuses, qui a choqué beaucoup de monde, vraiment choqué.
Vous avez eu, vous-même, beaucoup de retours suite à ce documentaire sur Arte.
Ce documentaire a été particulièrement...
Qu'est-ce qui a choqué
Ce qui a choqué, c'est l'attitude de l'Église qui a caché l'attitude de certaines responsables religieuses en Afrique, mais aussi, enfin voilà, tout était, enfin je ne sais pas si vous avez
donc,
regardé.
J'ai regardé, oui.
Voilà,
donc
c'était extrêmement...
Donc on en revient aussi à ce silence de l'Église.
Voilà, en fait, les gens prennent conscience peu à peu qu'il n'y a pas seulement de façon isolée des personnes qui seraient... vraiment malsaine, enfin, mais il y a aussi un système malsain qui a été de les protéger. Voilà. Et ça, je pense, ça a beaucoup choqué de personnes. Et là, les gens veulent comprendre. Donc, il y a de plus en plus de demandes, même de la base, pour faire des réunions dans les paroisses pour en parler. Les gens ont envie de parler de ce sujet maintenant et pour comprendre. Et c'est très important. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, un certain nombre d'évêques ou de paroisses comprennent qu'ils peuvent nous intégrer dans ce débat et qu'on va amener un éclairage.
Au fond, vous permettez, mais ces personnes que vous représentez, qui ont été abusées, vous n'êtes plus des ennemis de l'Église. Hein. Vous n'êtes plus perçus comme vous pouviez être perçus
alors,
avant par l'épiscopat.
Alors, c'est pas si facile que ça et c'est pas si...
Je vais trop vite. Donc, étape par étape.
Oui, oui. Je crois qu'il y a, deux parties de population. Il y a, pour un certain nombre de gens, vraiment, ils veulent comprendre. Donc, ceux-là s'ouvrent et essayent de commencer un cheminement. Et ceux-là sont prêts à nous écouter. Là, il y a une sorte de moment favorable. Et ces personnes, quand il y a un échange, quand le dialogue commence, des peurs tombent et ces personnes vont cheminer et entrent dans une compréhension. Et là, c'est positif. Mais dans le même moment, il y a d'autres personnes qui, en quelque sorte, soit prennent peur, soit se raidissent. Et là, il y a quelque chose qui est assez dangereux pour les victimes qui ont osé parler. Et on est assez attaqué. Et certaines personnes ont vraiment envie de nous faire taire. Voilà, vous avez un peu deux groupes. Et là, il y a quelque chose d'assez dangereux parce qu'on ne sait pas de quel côté on va basculer. Voilà. Parce que dans le même temps où on voit c'est de plus en plus de personnes qui veulent comprendre et on est invité, dans le même temps, d'autres personnes se durcissent.
Par peur ?
Oui, je pense par peur ou parce qu'ils sont trop déstabilisés.
Vous pouvez aller plus loin Vous l'analysez comment cette...
Alors, je pense que pour certaines personnes, ce n'est pas supportable de voir ce en quoi ils croyaient tant qui peu à peu s'écroule. Alors, ils s'accrochent le plus possible à l'image de l'Église qu'ils avaient, peut-être qu'ils ne veulent surtout pas perdre.
Quelles sont les questions que vous avez qui reviennent le plus souvent de ces personnes qui viennent assister à ces temps ou de formation ou ces temps où vous intervenez dans le cadre aussi du témoignage et pour répondre bien spécifiquement à ce qui se vit aujourd'hui?
Alors, un certain nombre de personnes demandent qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça, c'est un peu nouveau.
Alors, des personnes qui sont elles-mêmes, qui ont été victimes dans le passé ou qui n'ont pas été des
paroissiens. Alors, en fait, ce qui est très frappant, hein, c'est que quand vous avez, dans toute assemblée, il y a des gens qui viennent vous voir à la fin en disant « moi aussi, j'ai vécu ça ».
Vous en avez à chaque fois.
Ah oui, à chaque fois. Et en fait, le fait qu'on puisse, nous, oser parler, permet à d'autres personnes de parler. Et là, moi, aujourd'hui, puisque j'ai l'occasion, j'en profite pour dire, surtout vraiment, maintenant il y a la commission sauvée. Si vous avez envie de parler, si vous aussi vous avez été agressé ou vous connaissez quelqu'un qui a été agressé, quelqu'un de proche, par un prêtre ou par quelqu'un dans l'église en responsabilité, vraiment saisissez l'occasion. On a un an pour s'adresser à la commission sauvée qui est en train de faire tout un travail pour se rendre compte de l'ampleur de ce drame. Donc voilà, je pense que ça c'est très important de pouvoir, ou bien si les gens veulent s'adresser aux cellules d'écoute ou à leur évêque, bien sûr c'est possible, mais c'est le moment de parler. On peut s'encourager entre personnes qui ont été victimes à parler parce que c'est que cette parole qui permet de reprendre un chemin de vie.
Au fond, c'est cette parole libérée qui permet de revenir effectivement et de rechoisir peut-être la vie.
Mais en tout cas, le silence nous enferme dans un tombeau, nous enterre vivants, on peut dire, dans le passé. Et seule la parole peut ouvrir la pierre du tombeau et nous permettre d'en sortir.
Donc aujourd'hui, la parole se libère. Hein. Quand on vous entend aussi sur ces retours aussi d'intervention, de témoignages, de formation
La parole se libère peu à peu de plusieurs façons. C'est-à-dire que les personnes victimes sont plus nombreuses à parler, mais c'est dangereux pour elles parce qu'elles risquent d'être un peu massacrées par certains. Mais aussi, le silence est brisé parce que des gens veulent bien écouter. Parce qu'il ne suffit pas que des gens parlent, il faut que d'autres écoutent. Et non seulement écoutent, mais entendent. Et quelque chose comme ça...
Avec une formation bien spécifique, on imagine, de cette écoute par rapport à des victimes.
Oui, pour les personnes qui sont dans les cellules d'écoute, bien entendu, ouais. Il faut qu'elles soient formées. Mais même, rien que les personnes qui viennent aux soirées débat sur ce sujet, si elles viennent, c'est qu'elles ont envie d'écouter. Et moi, je suis frappée par l'écoute très respectueuse dans ces soirées. La plupart du temps, il y a eu des choses un peu plus houleuses autour du film, des débats un peu plus compliqués avec le film, grâce à Dieu, mais quand même, beaucoup de personnes veulent comprendre et se mettent dans cette attitude d'écoute respectueuse, et attentive de ce qu'on essaye de dire.
Donc c'était un premier pas, assister, savoir écouter, pour peut-être moins craindre aussi d'aborder aussi ce sujet,
oui.
Arriver aussi à dialoguer.
Oui,
et
aussi,
sans peur.
Pour les personnes, encore hier on m'a dit ça, pour les personnes qui pour la première fois voient quelqu'un qui a été victime en chair et en os, c'est très important parce que tout d'un coup, le problème qui est surtout théorique prend chair. Par le visage, par la présence d'une personne, tout d'un coup, les gens comprennent « Ah mais oui, c'est vrai » et quelque chose les touche et les rejoint dans leur chair.
Merci. Je vous propose de vous retrouver, Véronique Garnier-Bovier, demain à la même heure. Et merci.
Merci.